Bonjour, vous écoutez À Propos, le podcast d'actualité du journal Le Soir. Tous les jours, c'est l'expertise de notre rédaction dans vos oreilles. Comment faire pour s'adapter au changement climatique? Comment atténuer les effets des épisodes de pluie ou de sécheresse que l'on connaîtra forcément dans les années à venir? Des experts se penchent sur la question, y compris en Wallonie. On va voir quelles sont les pistes possibles. Je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez.
Grand angle.
Des épisodes climatiques plus intenses et plus réguliers, des inondations, de la sécheresse, des vagues de chaleur. Le panel des conséquences du changement climatique n'est évidemment pas réjouissant. Il n'en reste pas moins problématique et doit donc être considéré en termes de solutions. On ne contrera pas le réchauffement, mais il est encore temps de s'adapter. Comment et que faire pour justement s'adapter à ces nouveaux risques? Un colloque se penche sur la question ces jours-ci à Liège. Michel de Mulenard, journaliste au Pôle Planète, revient avec nous sur les différentes possibilités, sur ce qui existe déjà et ce qui est toujours à l'état de projet.
Bonjour Michel.
Bonjour Pierre.
L'adaptation, c'est le mot à la mode quand on parle climat. C'est parce qu'on a définitivement abandonné l'idée de combattre, avec succès en tout cas, le changement climatique. Ça veut dire qu'il y a une petite forme de fatalisme?
L'adaptation, c'est pas véritablement à la mode. C'est un mot dont on parle de plus en plus. C'est vrai qu'on a, dans un premier temps, commencé à insister sur la réduction des émissions, ce qu'on appelle l'atténuation, la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais on se rend compte, en fait, que même si on réduit les émissions de gaz à effet de serre, même si on les réduit fortement, et il faut les réduire fortement, eh bien, certains impacts du changement climatique vont de toute façon s'imposer. Et s'ils s'imposent à nous, il faut donc se préparer, il faut s'adapter, et il faut faire en sorte que les dégâts liés à ces impacts soient les moins importants possibles. Donc, pour l'instant, on a vu un retour en grâce de la notion d'adaptation parce qu'effectivement, on se rend compte que ces dernières années, les événements extrêmes liés au réchauffement du climat ont été de plus en plus graves et donc que des mesures doivent être prises rapidement.
On entend quoi par adaptation de façon très concrète? Pour monsieur et madame tout le monde, ça veut dire quoi?
Adaptation, ça dit bien ce que ça veut dire. Ça veut dire je prévois qu'il pourrait se passer quelque chose qui va impacter ma maison, mon territoire, mes biens, voire ma vie. Et donc, je me prépare, j'essaye de mettre en place des solutions qui vont permettre soit de prévenir complètement ces impacts. Par exemple, j'installe une digue le long de ma côte pour éviter que l'élévation du niveau de la mer cause des inondations. Donc ça, c'est prévenir entièrement, ou bien alors des mesures qui vont permettre d'atténuer les impacts, de les rendre moins graves. Donc, par exemple, j'encourage la recherche pour trouver des variétés de céréales, disons, ou de vignes qui vont mieux résister à la sécheresse ou à la chaleur et donc me garantir que le rendement de ces cultures va pouvoir rester à un niveau acceptable pour moi.
Il y a des mesures d'adaptation qui sont aussi des mesures de réduction des émissions. Si on pense par exemple à l'isolation des maisons, d'une part ça permet de réduire des émissions, d'autre part ça permet par exemple de vivre mieux des épisodes éventuels futurs de canicule.
Oui, vous avez tout à fait raison. En fait, c'est ça qui est le plus intéressant dans les mesures d'adaptation, en tout cas celles qui sont les mieux choisies, c'est qu'elles présentent ce qu'on appelle des co-bénéfices. Ça veut dire qu'elles permettent à la fois de prévenir les impacts du changement climatique, mais aussi pour certaines de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi pour certaines, par exemple, elles sont favorables à la biodiversité, à la nature, au piégeage du carbone, par exemple. Donc ce sont les mesures les plus intéressantes, ce sont celles qui présentent plusieurs gains, en fait.
C'est jeudi et vendredi, il y a un colloque qui est organisé à l'ULIège. L'ULIège qui a travaillé sur des scénarios possibles de réchauffement. Ça veut dire qu'ils ont un peu étudié ce qu'il se passerait dans un monde réchauffé à plus 2 degrés, ce qu'il se passerait dans un monde réchauffé à plus 3 degrés, à plus 4 degrés.
Oui, c'est exactement ça. Donc tout le monde est un petit peu, c'est pas propre à la région Wallonne, tout le monde est un petit peu en train de regarder ce qui va se passer dans les décennies à venir. Et c'est clair que tous les modèles climatiques montrent que la température moyenne à la surface du globe va augmenter et donc tout le monde est en train de regarder ce que ça représente pour son propre territoire. Donc on fait ce qu'on appelle une mise à l'échelle sur un territoire plus réduit. Et on regarde à partir de ces scénarios-là, qu'est-ce qui peut se passer sur le plan des précipitations, sur le plan des vagues de chaleur, sur le plan des sécheresses, etc. Donc chacun regarde un petit peu très concrètement quels impacts ça peut avoir. Et effectivement, la région Wallonne a lancé cet exercice-là, comme d'autres, avec trois scénarios, puisqu'évidemment, c'est difficile de savoir, puisque de l'autre côté, on essaye de réduire les émissions de gaz à effet de serre, il est difficile de savoir si on va véritablement y arriver, sur quelle trajectoire on se trouve exactement. Donc, on doit faire plusieurs scénarios. Et effectivement, les chercheurs qui travaillent là-dessus ont présenté trois hypothèses. Une hypothèse très optimiste, je dirais, très optimiste, mais en même temps, qui n'est pas très bonne pour nos territoires et pour le climat, mais elle est optimiste parce qu'elle signifie qu'on a vraiment réduit très fort les émissions de gaz à effet de serre, ce qui n'est pas la route qu'on prend pour l'instant. Donc, une hypothèse assez optimiste, entre guillemets, qui implique un réchauffement de 2 degrés. Une hypothèse qui est, disent les chercheurs, plus raisonnable, c'est-à-dire c'est plus ou moins la trajectoire qu'on suit actuellement si tous les engagements qu'on a pris sont respectés. C'est un réchauffement de 3 degrés. Et puis, une hypothèse beaucoup moins bonne, qui est un réchauffement de 4 degrés, où là, on entre dans un territoire un petit peu plus incertain, très incertain, avec des impacts beaucoup plus graves.
Si on prend la piste la plus probable, celle du réchauffement à plus 3 degrés, en quelques mots, ça veut dire quoi à terme en Wallonie ?
Mais donc, ce que les chercheurs ont fait, c'est de dire, voilà notre scénario, et puis ils ont quelque part distribué toutes leurs données à toute une série d'autres experts, qui ne sont pas climatologues, eux, mais qui sont des experts des forêts, des experts du cycle de l'eau, des experts du fonctionnement des rivières, etc. Et ils ont demandé, donc c'est le travail qui est en cours, ils ont demandé à tous ces gens, mais aussi des experts du secteur de la santé, par exemple, puisque tout ça va évidemment nécessiter qu'on réfléchisse à la manière dont on organise le secteur de la santé, ont demandé à tous ces experts de simuler les impacts dans leur propre secteur. Et donc, ça veut dire, par exemple, pour tout ce qui est précipitation, ça veut dire qu'on va vers des précipitations qui seraient plus extrêmes à certains moments, mais qui seraient beaucoup plus faibles, par exemple en été. Donc, on aurait des étés qui seraient beaucoup plus secs et beaucoup plus chauds qu'auparavant, avec évidemment des impacts sur la végétation, sur la capacité des nappes phréatiques à se recharger, sur l'agriculture, évidemment. Donc, ça, c'est un problème assez grave pour lequel il faut se préparer. Il y a évidemment d'autres impacts sur la présence de la neige, par exemple. Hein. Par exemple, au centre du pays, eh bien, les couches neigeuses d'un centimètre disparaîtraient quasiment totalement. Donc, il y a toute une série d'impacts qui sont en train d'être étudiés par les universitaires et les académiques.
Ça vaut pour les constats du réchauffement. En termes d'adaptation pure et dure, justement, la Wallonie a déjà lancé des initiatives pour s'adapter, justement.
Alors, la Wallonie, je dirais qu'elle travaille pour l'instant, depuis quelques années, de manière un petit peu disparate dans toute une série de secteurs où on a commencé à réfléchir à la nécessité de se préparer à un réchauffement du climat.
On est au début du processus.
Voilà, donc on a commencé à réfléchir. Maintenant, ce qu'il faut, c'est rendre toutes ces réflexions cohérentes entre elles, les finaliser, donc essayer d'être sûr qu'aucun secteur n'a échappé à la réflexion. Et puis surtout, à partir du moment où on a une idée de ce qui va se passer et de ce qui pourrait se passer, puisque évidemment on est toujours dans le domaine des probabilités, il faut prendre des mesures, il faut mettre des actions en place, etc. Et évidemment, je ne dois pas vous faire un dessin, les inondations qui ont frappé le bassin de la Vesdre en juillet 2021 ont été quelque part une espèce de réveil brutal et surtout une espèce d'exemple concret d'épisode qui pourrait se produire de plus en plus souvent. Donc les climatologues estiment que des épisodes du type juillet 2021 pourraient se passer deux fois d'ici 2050. Donc la probabilité de ce genre de choses augmente fortement. Et donc derrière ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut se dire, comment est-ce que j'adapte mon territoire ? Est-ce que je change ma politique en matière d'urbanisme ? Est-ce que je change ma politique en matière de gestion forestière ? Est-ce que je monte des murs ? Est-ce que j'enlève des ponts ? Est-ce que je détruis des bâtiments comme on le fait pour l'instant ? Donc il y a toute une réflexion autour de ça. Et cette réflexion, elle a eu lieu dans le cadre du bassin de la Vesdre. Il y a ce qu'on appelle un schéma stratégique qui a été rédigé par des experts. Maintenant, il faut rentrer dans la phase de concrétisation, de mise en œuvre et essayer d'aller évidemment le plus loin possible pour se préparer au mieux à des épisodes très problématiques.
On peut justement se baser sur les zones touchées par les inondations. On peut les prendre en exemple, entre guillemets, en disant bah là, cette zone a été particulièrement touchée parce que quelque chose, ou là, on aurait pu éviter des inondations si on avait, en prenant vraiment des cas très concrets.
Alors, c'est effectivement une espèce de laboratoire parce qu'on a beaucoup de choses sous la main, on a pu regarder beaucoup de choses, on va encore regarder beaucoup de choses. Après, il est clair que le bassin de la Vesdre a des caractéristiques propres. C'est une vallée qui est très encaissée, c'est une vallée où il y a des barrages qui fonctionnent, c'est une vallée avec des affluents qui sont assez torrentiels. C'est un endroit où il pleut beaucoup, en tout cas sur le plateau des Fagnes. Donc il y a évidemment des spécificités, mais ce qui est intéressant, c'est que, bien entendu, on a des choses en grandeur nature sous les yeux, et on peut par exemple constater que quelque part, dans beaucoup de secteurs, il va falloir corriger une série de choses qu'on a faites, pas il y a 5 ans ou il y a 10 ans, mais il y a beaucoup plus longtemps, depuis le début du 19e, du 20e siècle, etc. Et on se rend compte que maintenant, les circonstances ayant changé, on va devoir remettre ces choses sur la table, par exemple en matière d'urbanisme, et on va devoir corriger une série de choses. Donc ça signifie pas ne plus construire en zone inondable, mais ça signifie, à certains endroits, déconstruire et protéger les zones inondables, protéger en tout cas les biens humains, parce que en zone inondable, ils ne peuvent plus subsister.
Il y a un peu une constante, j'ai l'impression, dans tous ces projets, c'est comme vous le disiez là, diminuer l'urbanisation, rendre donc plus de place à la nature et à une nature plus résiliente, c'est ça qui est un des moyens les plus efficaces pour s'adapter ?
Oui, c'est un des moyens les plus efficaces, parce que, comme je le disais au début de notre conversation, c'est un des moyens qui apporte des bénéfices au-delà du simple fait de lutter contre les inondations. Donc les solutions dans lesquelles on utilise la nature, les forêts, les tourbières, la manière dont le paysage est organisé, le paysage agricole notamment, ces solutions-là, elles sont favorables non seulement à la problématique des inondations, elles permettent de réguler le cycle de l'eau quand il y a trop d'eau, elles permettent aussi de pallier le manque d'eau quand il n'y a pas assez d'eau, donc ça permet aussi d'apporter des solutions en cas de sécheresse. Et par ailleurs, comme je le disais, ce sont des solutions qui souvent sont très favorables à la biodiversité, parce que ce sont des solutions qui sont basées justement sur la biodiversité naturelle, qui est en fait une espèce d'assurance-vie permanente pour l'homme.
Le monde politique, comment est-ce qu'il prend, comment est-ce qu'il considère cette adaptation ? C'est nécessaire ? C'est un gadget ?
C'est indispensable. Donc ce n'est pas nécessaire, c'est indispensable. Donc vraiment, les modèles montrent qu'il y a urgence à le faire. C'est pas une plaisanterie, il faut le faire, et il faut le faire à l'échelle, donc ça veut dire qu'il ne faut pas lésiner sur les moyens qu'on utilise, hein. On ne va pas faire un mur de 50 cm si on sait que l'eau va monter d'un mètre, donc il faut prendre les mesures à l'échelle. Alors c'est évidemment compliqué pour le politique, parce qu'il y a une série de choses, comme je le disais, qui doivent être corrigées. Ça veut dire qu'on a commis des erreurs, tout simplement, ou en tout cas que les circonstances ont changé et qu'il faut changer des choses de manière assez fondamentale, comme par exemple l'aménagement du territoire et l'urbanisme. Donc c'est évidemment pas facile de changer ce genre de choses, parce que parfois, peut-être, ça va amener à dézoner certaines zones urbanisables, donc des zones où on pouvait en principe jusqu'à présent construire. Eh bien peut-être qu'il va falloir dire, ben non, désolé, désormais on ne peut plus construire à cet endroit-là, ou moyennant des conditions extrêmement drastiques pour le faire, parce que c'est trop dangereux, tout simplement. Donc c'est pas facile, parce que ça remet en cause une histoire, des manières d'être, d'habiter, etc. Mais d'une part, c'est indispensable, et d'autre part, et c'est un argument que je trouve intéressant, d'autre part, ce sont sans doute des mesures qui sont peut-être un peu contraignantes, mais surtout qui sont destinées, en fait, à améliorer le cadre de vie, améliorer le bien-être des gens, à sauver des vies aussi. Et donc, ce sont des mesures sur lesquelles on peut tenir un discours positif, parce que si elles sont bien conçues, si elles sont bien faites et rapidement, eh bien, elles vont rendre la vie plus agréable, finalement, aux gens.
Le grand public, il est prêt à ces adaptations. Justement, il y a l'exemple des inondations de juillet 2021 qui a peut-être créé une prise de conscience auprès de certains qui n'étaient pas forcément rendus compte des effets potentiels du changement climatique. Et une fois qu'ils ont eu cet exemple-là sous les yeux, ils sont peut-être un peu plus enclins à accepter cette adaptation ?
Disons que c'est ce qu'on peut espérer. Après, il ne faut pas non plus être trop optimiste. Il y a beaucoup de gens qui sont, même ayant été fortement impactés par les inondations, beaucoup de gens préfèrent tourner la page, penser à autre chose et reprendre leur vie comme avant. Ça se voit au quotidien dans la vallée de la Vesdre. Donc, ce n'est pas facile de changer. Ça reste compliqué. Après, il n'en reste pas moins que le choc a été très important, que des prises de conscience font leur petit chemin. Ça va se poursuivre, il faut que ce soit soutenu par tout le monde, que ce soit encouragé. Il faut juste espérer que cette prise de conscience ne progressera pas à la faveur de d'autres problèmes, que ce soit des sécheresses, des canicules ou ce genre de choses. Il est toujours mieux de parier sur l'intelligence humaine que sur notre obligation de nous adapter à coups de bâton sur la tête.
Merci beaucoup Michel.
Je vous en prie.
À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient demain matin. Merci de votre écoute. Si vous en voulez encore, tous nos podcasts sont disponibles dans l'application du soir. Rendez-vous dans le store de votre smartphone ou de votre tablette pour la télécharger. À demain.